Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée « Regard sur l'actualité de la semaine en RDC ». Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Bonjour Johnson Ishara Boutaragaza.
Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les auditeurs et les co-débatteurs qui sont en ligne.
Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Bonjour au professeur Bob Kabamba.
Oui, bonjour Limaté et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi ainsi qu'à mes co-débatteurs du jour.
Et lui aussi n'est pas encore là, il va nous rejoindre. C'est en ligne depuis Paris, capitale de la France. C'est Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, magazine paraissant à Melbourne en Australie. Voilà, il va nous rejoindre, il n'est pas encore là. Merci à tous pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une vérité.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Et Eric Mwamba, qui est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, magazine paraissant à Melbourne, en Australie, qui intervient depuis Paris, à la capitale de la France, n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir le dialogue national inclusif initié par le président Félix Tshisekedi, un général nommé pour la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, et enfin, gestion efficace du temps comme facteur de rentabilité économique, Kinshasa, ville du temps perdu. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la démarche du gouvernement congolais visant à encourager la participation des Congolais au capital des entreprises minières de la RDC. En effet, la République démocratique du Congo accélère la mise en œuvre de la participation des Congolais au capital des entreprises minières. Selon l'agence de presse Bloomberg, le gouvernement a réuni mardi à Kinshasa les représentants du secteur minier afin d'harmoniser les points de vue sur les projets des décrets devant rendre cette mesure effective. Les échanges ont porté sur une disposition du code minier qui prévoit qu'au moins 10% du capital des sociétés minières opérant en RDC soit détenu par des citoyens congolais. À l'issue de cette rencontre, les parties prenantes se sont accordées sur la nécessité de signer le décret sous réserve de quelques ajustements techniques. Un comité ad hoc a été mis en place pour finaliser ces derniers points. En janvier dernier, le ministre des Mines, Louis Watoum, avait accordé aux entreprises minières jusqu'à la fin du mois de juillet pour se conformer à cette obligation des participations congolaises au capital. Cette réforme vise à renforcer la présence des investisseurs nationaux dans un secteur clé de l'économie congolaise. Johnson Ishara Boutaragaza, que pensez-vous de cette réforme visant à renforcer la présence des investisseurs nationaux dans les entreprises minières?
Oui, Monsieur Guy, j'ai dit encore une fois bonjour à tous les co-débatteurs qui sont en ligne et tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre. Je pense que cette question elle a un caractère également de redevabilité, mais aussi d'appropriation de richesses et les recettes également internes. Parce que c'est vrai que à l'époque, Joseph Kabila, président de la République, il avait tout fait pour que ces codes miniers soient révisés et que ça nous ramène à ces pourcentages. Parce que la République démocratique du Congo, dans son secteur minier, ressemblerait comme un champ où on vient exploiter, que le propriétaire du champ ne consomme pas le gros de ce qui sort de son champ-là. Et on fait seulement quand on fait des descentes sur terrain, dans les zones où on sent qu'il y a de l'exploitation de matières premières, mais la population vit une pauvreté criante. Il n'y a rien qui est fait au niveau social. Mais je pense que si jamais il y a maintenant des Congolais qui ont de part dans ces sociétés, ça ferait à ce qu'également les Congolais auront non seulement l'œil sur tout ce qui est comme recette qui serait mobilisé par rapport à ces activités minières, mais également il y aura de l'impact, paix soit-il, mais sur terrain. Donc quand on part par exemple aujourd'hui du Nord Kivu par exemple, où on sent qu'il y a une forte exploitation de minerais, c'est pratiquement le territoire de Walikale que j'ai eu le temps de visiter, de côtoyer, dont j'ai beaucoup de jeunes qui œuvrent là-bas, mais tout en gardant une pensée pour ces territoires, mais on risquerait de penser également ce que c'est le territoire le moins développé du Nord Kivu. Quel est ce paradoxe où il n'y a même pas de route, il n'y a même pas d'aéroport, l'aérodrome qu'on a mis là, interbâti, où les petits porteurs font des atterrissages pour en ramener de matières premières qu'on ne sait pas où. Donc quand vous quittez même le Nord Kivu, vous allez dans le Bas-Ouélé comme le Haut-Ouélé, vous allez vous rendre compte que le niveau de pauvreté, il est encore très frappant. En entrant seulement dans la province, vous sentez quand même la misère, mais entre-temps, tous ces milliards de dollars qui quittent à travers les matières premières, les Katanga n'en fait pas exception. Donc, moi je pense que maintenant, ce qu'on a compris, c'est que il y a quand même ces activités qui sont là, où ceux qui sont comme les propriétaires de ces matières, ce sont justement ces entreprises. Quand ils récupèrent ces matières premières, ils partent les écouler ailleurs et que le Congolais n'en bénéficie pas. C'est ce qui explique que même les opérateurs économiques congolais, ils souffrent d'avoir une banque congolaise aujourd'hui. L'économie congolaise n'arrive pas à sécuriser le Congolais et même à travers leurs moyens financiers. Donc je pense que désormais, s'il y a maintenant des Congolais qui s'y investissent avec tous les sérieux nécessaires, avec un regard également important du gouvernement pour sécuriser les recettes, également leurs fonds investis, ça fera ce qu'on puisse voir un boom non seulement économique mais aussi social. Parce que vous savez, M. Guy, que dans les grandes entreprises, dans un pays sérieux, les entreprises doivent être à mes chaque fois de justifier aussi dans les recettes mobilisées combien ils affectent dans le social de Congolais. Et c'est obligatoire. Mais vous pouvez voir par exemple, je vais vous donner un cas seulement de Walikale, dans ces territoires-là, où il y a tous ces minéraux qui sont exploités tous les jours. Mais quand vous posez la question des équipes, je prends seulement les équipes de football, les équipes qui n'ont même pas mesure d'avoir de Varese. Et pourtant, en réalité, le social voulait à ce que il faudrait que ces entreprises soient à mesure, chaque fois, au quotidien, devant l'Assemblée nationale, devant la Cour des comptes, de dire, voilà, nous avons 30%, 20% affectés, et voilà comment ça a été affecté. Bon, tout ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas un regard de Congolais qui doivent être là et qui doivent rendre compte sérieusement au gouvernement, mais également aux instances habilitées. Et je pense également que ça créerait quelque chose qui ressemblerait à une circulation monétaire à l'interne. Donc, il y a deux fonds qui sont là, et le fonds reste au Congo, au lieu que tout puisse partir ailleurs, et ça permettrait d'une manière ou d'une autre qu'on puisse également consommer le peu qu'on a à l'intérieur.
Merci, professeur Bokobamba. Cette question soulève toute la problématique de la quasi-absence des investissements nationaux dans l'économie congolaise, alors que la RDC a beaucoup d'atouts économiques. Comment peut-on expliquer le fait qu'il soit peu les Congolais qui ont investi dans leur pays, pas seulement dans le secteur minier, mais dans tous les secteurs. On ne voit pas assez de Congolais investi dans ces secteurs-là. Comment vous expliquez ces facteurs-là?
Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment, vraiment comprendre lorsqu'on aborde cette question-là. C'est une question qui, en fait, ne concerne pas que les Congolais. On a remarqué la même chose dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que les habitants d'un pays, donc ici spécifiquement les Congolais, ne sont pas en mesure de pouvoir lever des fonds nécessaires pour pouvoir participer à la production et à la transformation des minéraux, par exemple, ou bien d'autres choses. Il est toujours recommandé, souvent ce qu'on a remarqué, c'est toujours les capitaux étrangers qui viennent, en fait, investir dans des projets qui sont des projets avec les surpoids pour lesquels l'État dans lequel on investit ici, la RDC, n'a pratiquement pas grand-chose à dire à part encadrer ces investissements qui arrivent. Parce que lorsque l'on parle des investissements dans les secteurs miniers, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On parle quand même de manière chiffrée des investissements de fois en milliards de dollars. lorsque l'on a des fonds à milliards de dollars et que l'on demande effectivement de pouvoir avoir une participation des Congolais, il faut que le Congolais soit en mesure de pouvoir lever un minimum 100 millions de dollars, etc. Or, 100 millions de dollars, comment on va lever 100 millions de dollars, par exemple? On ne peut les lever que lorsque l'on a un système bancaire solide qui permet justement d'apporter des garanties nécessaires par rapport à ce genre d'opérations. Quand on regarde le système bancaire congolais, il n'y a pas photo, il n'y a pas de banque congolaise en RDC. Toutes les banques sont des banques étrangères. Et vous regardez les bilans de ces banques effectivement ne s'aventurent pas dans ce genre d'investissement, en particulier des investissements qui coûtent cher et puis qui prennent beaucoup de temps avant de pouvoir commencer à avoir une certaine une rentabilité. Ça, c'est vraiment une première chose. Alors, comment généralement on fait pour essayer quand même de promouvoir et d'essayer de doper la participation des citoyens? Il y a toujours dans certains autres pays, on fait ce qu'on appelle un fonds souverain. Et c'est fonds souverain qui a la capacité de pouvoir mobiliser les moyens financiers nécessaires, et essayer de couvrir, par exemple, la participation des citoyens congolais dans les cadres de ces investissements. Or, les fonds souverains, nous n'en avons pas, et dans les quelques cas où on pourrait avoir ce genre de système, mais le système est dilapidé, on sait très bien que toutes les dépenses qui sont payées par les sociétés minières n'arrivent pas nécessairement dans les caisses de l'État. Plusieurs rapports de plusieurs ONG ont déjà mis ça en lumière. Donc il s'agit véritablement d'une non-absence, d'une absence de politique dans ce sens-là, et je ne pense pas véritablement que aussi les investisseurs étrangers, ils verraient d'un bon oeil que bon, des Congolais qui n'ont pas les moyens de leur politique d'investissement puissent devenir des partenaires dans la gestion donc des entreprises minières. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur cette question.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Via Mosolo de Teddy Sukami dans l'orchestre Zaiko Langa Langa, et on se retrouve juste après.
Viamo solo mingi na meza na tele, viamo yekedi na koka tele. Sabo iko limwa vase po yamo solo, eloko yote somo, eloko yote somo zame. Koni batika mokili e, sepo yamo yeke, koni balikwa na pele, sepo yano kumu, likolo yamo solo, zimu la jam. Toko we laka Koni batika mokiliye Sepo ya moyeke Koni bali mwama pele Sepo ya nukumu Likolo ya mosolo Zimu la ja Toko we laka
Mosolo eloko malamu Kasinye banitu Sango mususu ea kandoko Okoye bache
Boni batika mokiliye Sepo ya moyeke Boni bali mwama pele Sepo ya lukumu Likolo ya mosolo Zimu la asha Toko we laka Koni batika mokiliye, sepo ya mweke, koni bali mwana pele, sepo ya lukumu, likolo ya moto, zimu la asha, toko we laka. Kia mosolo mige, na mensana te, koke rase na banika, na koka te,
C'était Via Mosolo d'Albert José Sukami Landu di Teddy Sukami, ce célèbre guitariste de l'orchestre Zaiko Langa Langa. Via Mosolo est une chanson éditée en 1976. Teddy Sukami nous a quittés le 26 février 1986 à Caen, en France. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. Le président de la République annonce la tenue d'un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution. L'annonce a été faite vendredi 17 juillet 2026 par le cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue d'une audience que Félix et Antoine Tshisekedi a accordée aux représentants des principales confessions religieuses de la RDC. Nous nous réjouissons de cette annonce et exprimons notre gratitude au chef de l'État, a déclaré le cardinal Ambongo au nom de la délégation des chefs religieux. Selon lui, cette initiative concrétise les efforts engagés par le président de la République en faveur de la paix, de la cohésion nationale et du renforcement de l'unité du pays. Il a aussi salué l'implication des autres chefs d'État qui ont contribué à ces efforts, citant notamment ceux du Burundi et du Congo Brazzaville. Les conditions de ces dialogues seront précisées chemin faisant, a poursuivi le cardinal appelant tous les Congolais de s'inscrire dans cette dynamique pour que le peuple congolais puisse vivre en paix. Pour lui, la paix a besoin des communions de ses filles et ses fils pour faire face à l'agression rwandaise. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous avez souhaité justement nous parler de cette actualité, donc le dialogue national inclusif initié par Félix-Antoine Tshisekedi. On vous écoute.
C'est un sujet véritablement important pour ma part et qui vraiment nécessite de pouvoir arriver à avoir du temps pour bien comprendre ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo par rapport à ça. Vous allez vous souvenir que depuis quand même plusieurs mois, voire même maintenant plusieurs années, il y a eu des tentatives de négociations dans toute une série de capitales, de soit africaines, soit asiatiques et ailleurs, et au cours de ces différentes initiatives, que ce soit donc Nairobi, Doha, Luanda, Montreux, Washington, N'Djamena, Luanda, Lomé, Bujumbura, Brazzaville et même Paris, et ressortait toujours la demande de pouvoir arriver à traiter la question congolaise en interne au sein d'un dialogue qui va permettre de pouvoir mettre sur la table tout ce qui ne va pas en RDC et essayer de trouver des solutions. À tous ces rendez-vous, cette demande a été plusieurs fois répétée pour que les Congolais puissent s'asseoir et discuter donc de leurs problèmes. Et à chaque fois, le gouvernement de Kinshasa a toujours répondu par la négative et de ne pas nécessairement aller vers ce dialogue depuis maintenant plusieurs années. Et les prêtres eux-mêmes c'était déjà engagé pendant tout un temps à sensibiliser aussi bien l'opposition que les pays de la région et voire même les pays au niveau international de la nécessité de la tenue de ce dialogue. Alors ce qui est assez étonnant justement d'avoir cette annonce faite par le cardinal Ambongo après sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi, elle pose beaucoup de questions. Pourquoi ce qui a été refusé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, est maintenant accepté? Alors, lorsque l'on se pose cette question, on voit bien, sans même se rendre compte que, oui, nous sommes, lorsque l'annonce a été faite, et donc le 17 juillet. Merci à vous. Merci pour cette correction. Donc nous sommes déjà le 24 juillet aujourd'hui où nous sommes en train d'aborder. Et le 24 juillet, nous regardons le calendrier électoral et surtout la feuille de route qui a été publiée par la CENI pour pouvoir aller vers les élections de 2028. On se rend bien compte que, au fait, le président de la République n'a plus que 17 mois à la tête de l'État comme président pour qu'il puisse y avoir un nouveau président avec des élections qui soient organisées. Mais au jour d'aujourd'hui, il se rend compte que la CENI elle-même n'a pas encore commencé la moindre opération devant montrer qu'on est en train d'aller vers des élections en 2028 et permettre qu'il puisse y avoir une alternative. Et cette annonce donc de dialogue donc ressort à un moment où on se rend bien compte, oui, comme il n'y aura pas élection en 2028, et que 2028 approchant, il est maintenant important de pouvoir trouver des solutions et qu'est-ce que l'on va faire. Et de là vient effectivement, de mon point de vue, cette situation d'accepter le dialogue, puisque ce dialogue va avoir certainement comme point la question liée de l'après 2028 et rentrer dans une période de transition qui va permettre justement de pouvoir arriver à avoir un glissement, puisque les élections n'auront pas et le régime restera en place après 2028. Et donc, en partant de ces deux faits, on se rend bien compte que, oui, effectivement, l'objectif de ce dialogue n'est pas nécessairement un objectif de pouvoir arriver à résoudre les problèmes qui se posent au Congo, mais l'objectif de ce dialogue, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure organiser une transition pour permettre à Félix Tshisekedi de pouvoir aller au-delà de 2028. Par ailleurs aussi, ce qui est assez étonnant, oui, on amorce la question du dialogue. De l'autre côté, on continue avec toute une série de mesures, de lois qui sont adoptées et qui montrent véritablement, qui sont en train de montrer et d'ouvrir la voie vers un changement de constitution par l'organisation d'un référendum grâce à une loi qui est anticonstitutionnelle et que la Cour constitutionnelle même, elle a déclaré la requête recevable mais non fondée, ce qui n'empêche pas la promulgation donc de cette loi. Et donc la loi référendaire qui est là, avec les dispositions qui ont été adoptées, elle va ouvrir certainement la voie vers un changement de la constitution, et cela aussi, au changement de la constitution, pour permettre justement à Félix Tshisekedi de pouvoir postuler un troisième mandat, puisque la constitution actuelle l'empêche véritablement d'aller vers ce troisième mandat. Et donc clairement, ce dialogue aussi va poser beaucoup de questions. En écoutant le porte-parole du gouvernement, il pose déjà les balises de manière claire en disant dialogue inclusif, mais non pas avec ceux qui ont pris les armes. Bon, ok, ceux qui ont pris les armes ne pourront pas participer à ce dialogue, mais n'empêche, ceux qui ont pris les armes, on continue toujours à négocier avec eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on négocie à Doha, on est déjà, je ne sais pas, à la 8e ou 9e séance de discussion entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa. Plusieurs accords ou protocoles d'accord ont bien été signés, des engagements ont été pris avec la rébellion, et lorsque maintenant il faut parler des problèmes internes au Congo, cette rébellion, tout d'un coup, n'est plus fréquentable. Par ailleurs aussi, une bonne partie donc de dirigeants de cette rébellion ont été condamnés à mort par la justice militaire au Congo. Et aussi là-dedans, qu'est-ce qu'on remarque aussi, que Kabila, qui est l'ancien président honoraire, dont on connaît le poids ainsi que sa dimension par rapport à l'espace politique au Congo, semble être aussi exclu du fait que lui-même aussi est condamné à mort. Donc, lorsque l'on parle de dialogue inclusif, on ne peut pas, de mon point de vue, parler à ce moment-là de dialogue inclusif quand on est déjà en train de pouvoir exclure certaines personnes.
Merci. Johnson Ifera Boutaragaza, vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Dans un contexte de conflits armés interminables et de la situation sécuritaire et humanitaire catastrophique dans l'est de la RDC, à votre avis, logiquement, quel pourrait être l'objectif primordial, n'est-ce pas, d'un tel dialogue? Renforcer les fronts internes et l'unité nationale face à l'agression rwandaise, ou s'attaquer d'abord à ce que les opposants appellent cause profonde des crises en RDC?
Justement, Monsieur Guy, je pense qu'aujourd'hui, le pays, nous sommes en train de tomber dans les mêmes erreurs d'hier. Et comme le disait le philosophe Godefroy Kamana, paix à son âme, c'est que nous sommes dans une carence d'intelligence sociale en tant que Congolais à pouvoir résoudre nos problèmes en fond. En fond, ça veut dire que on s'est mis sur une table pour savoir que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, ça ne va plus se répéter demain et que nous devons trouver des solutions durables. Tenez, comme venait de le dire le professeur Bob Kabamba, moi je ne vais pas seulement commencer par l'annonce de la CENCO et des CC qui avaient annoncé le dialogue inclusif, mais plutôt je vais commencer parce que le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à son époque, il avait dit quand encore ces mouvements rebelles n'avaient pas encore massacré nos compatriotes à Rutshuru, à Goma, à Bukavu, à Uvira, partout ils sont passés. Et ces gens étaient encore vers Bunagana quand on se rappellera qu'il avait dit ça serait mieux d'abord qu'on engage des échanges avec ces gens-là, c'est-à-dire un dialogue, des discussions pour savoir comment ils peuvent arrêter l'hémorragie. Et à ce moment-là, le président de la République, il est resté imperturbable. Il a dit non, jamais on ne peut pas le faire. Et surtout, on était d'accord de dire on ne peut pas engager chaque fois des négociations avec des terroristes. Et c'était le concept qui était utilisé à l'époque. Et ce concept a connu des changements incroyables. Il a été métamorphosé jusqu'à ce que, même quand ils se sont rencontrés à Doha, c'était pour dire le gouvernement congolais et le 1-23, ce n'était plus ni les panthères, ni les terroristes, ni les tueurs. Donc on a senti quand même qu'on s'est mis nous-mêmes dans une situation où nous souffrions du chaud et du froid.
quoi, et ce n'était pas normal. Donc, ça veut dire que depuis ces temps-là, si on savait qu'on allait chiter par « on s'assoit », c'est depuis longtemps que ça devrait avoir lieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'asphyxie. L'asphyxie ou l'opposition, armée comme non armée, asphyxie le pouvoir en place. L'asphyxie pour l'opposition armée, c'est-à-dire, c'est le fait que nos zones sont toujours contrôlées, les recettes sont toujours récoltées, ils sont en train d'imposer tout ce qu'ils veulent dans cette zone-là, et militairement, ils tiennent pour dire qu'ils sont prêts à avancer. Donc, il y a de l'asphyxie qu'on est en train de consommer aujourd'hui. Du côté opposition non armée, on voit qu'il y a également cet éveil, ça peut être éveil hypocrite ou opportuniste, pour dire voilà, on va encore s'emballer, on y va, parce que de l'autre côté, nous avons trop de condamnés à mort, vous le savez, il y a trop d'exilés, et qui, nombrés parmi eux, ils ont que 2 militants au pays, mais eux, ils ne sont pas là, et quand ils vont dire, pour que nous rentrions en sécurité, pour que notre condamnation à mort soit levée, il faudrait, ça veut dire, il faut en découdre, et la population.
Oui, maintenant que cela a été accepté par le chef de l'État, et vous pensez que ça peut être quoi l'objectif primordial, n'est-ce pas, de ces dialogues? Parce qu'il y en a qui parlent de renforcer les fronts intérieurs et l'unité nationale face à l'agression rwandaise. Il y en a qui parlent, n'est-ce pas, de s'attaquer aux causes profondes des crises en RDC.
Non, je pense que moi, je suis loin de penser qu'on veut vraiment attaquer les causes profondes dans ces dialogues. Parce que quand vous écoutez les communicateurs du gouvernement comme de l'opposition, moi, ça me fait de la chair de poule, monsieur Guy. Cette guerre qu'on a vue, comment elle a commencé, qui nous a pris nos familiers, nos amis, et qu'on arrive à dire aujourd'hui, voilà, on va s'asseoir. Tenez, j'étais passé dans l'émission Radio Capi, si vous vous rappellerez, j'avais dit que ce dialogue tel qu'il s'annonce, on va finir par aller en 2027. Et à la veille de 2028, c'est pour gagner le temps pour le président de la République. Et on va être dans une situation où on va dire, voilà, acceptons maintenant de nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons commencer bientôt le mois d'août. Déjà, il y a une annonce qui a été faite. Après cette annonce, l'ordonnance ne devrait prendre tous ses temps pour que l'ordonnance ne soit publiée, mais l'ordonnance n'est pas toujours là. Ça veut dire que l'ordonnance devrait nous dire clairement quelle est la forme que ce dialogue va prendre. Après l'ordonnance, on devrait avoir le terme des références qui doit nous dire ça va se passer où, qui sont les participants. Alors, on a l'impression que le gouvernement reste sur son camp de gagner les temps. Les gagner les temps par rapport aux enjeux de 2028. De l'autre côté, il y a une position de l'opposition qui est devenue de plus en plus inquiétante. Inquiétante parce que on peut pas dire nous allons organiser une marche pour demander au président de la République de démissionner pour mauvaise gouvernance. Et du coup, parce que le président de la République annonce les dialogues dans lesquels vous allez participer, parce qu'on va parler maintenant de qui doit faire quoi, vous dites nous reportons cette marche, nous pensons que nous devons nous asseoir. Donc ils sont en train de jouer à la montre, et comme qui dirait, le vrai problème ne seront pas attaqués, parce qu'on a des mauvais acteurs sur la table, et qui ont décidé de s'asphyxier eux-mêmes, et que c'est le peuple qui est en train de payer aujourd'hui le prix.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le lundi 6 juillet dernier, c'était la date anniversaire de naissance de Franco Luambo Makiadi, ce célèbre guitariste, chanteur, auteur-compositeur congolais et patron de l'orchestre Oké Jazz. Lokanga Ladio Pene Luambo Makiadi est né à Sonabata, dans le Congo central, le 6 juillet 1938. Malheureusement, c'est Baoba de la musique congolaise et moderne, et nous a quitté le 15 octobre 1989 en Belgique. À l'occasion donc de son anniversaire de naissance, nous allons écouter l'un de ses classiques intitulé Makambo Ezali Bourreau, sorti en 1985 avec la voix de Madilou System, et on revient juste après.
Mobali ya kenena poto yo. Mobali ya kenena poto oh. Akene koyekola oh. Akene kie sika ya lisano. Akene motako oh. Oyo ninye Esika ya lisano moto nyoso asakanaka. Esika ya mawa moto nyoso alelaka. Ngai na leli mobali akene motako Nakuti na lopango bato bazali kolela ngai na bandi na ngai pe kolela kolela na ngai mawa ya mobali mawa na ngai ya sisteme ye mawa na ngai ya fisto ye akosonga sanza nini ye akosonga mbula nini ye
oyo nini ye
Kana na yo ozali kotina Bongo papa ozali kotina Na telefone ozali kosolola Mbote na fami ozali kopesa Na lingi presence Na lingi presence Abo moto na yo papa
Oyo ninye
Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Nasengi dodo nzela ngana bima Dodo andimeli ngana motema Ngana bimi mambora butu Nakuti dodo na maboko ya mandana ngai Misozo bae salite
Makambo ezali minene
Motema eli ngana
Ndenge nini ye
Makani siyemba na
nenge nini ye
Motema ebo ya
nenge nini ye
Moli mona tia
yango wapi ye
Dodo adese warna ye Alongo lingai nesika na lingaka ye
Makambo ezali minene ye
Azala kana susi na motema mama Yango na koma komela mingi ye Yango na koma kwiti kwiti ye Pona longola susi ya mobali oyo Akoma na kamarade na ngai elu sala ye
Makambo ezali minene ye
Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene
Makambo ezali minene
Lobby na tango ngana kauki
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine en RDC. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la démarche du gouvernement congolais visant à encourager la participation des Congolais au capital des entreprises minières en RDC. Nous avons également analysé le dialogue national initié par le président Félix Antoine Tshisekedi. Participe à cette émission, Johnson Ishara Boutaragaza, il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. En ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Et on devait aussi avoir Eric Mwamba, qui est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, magazine paraissant à Melbourne en Australie, mais il n'est pas encore là.
De Banana à Ouvira, de Zongo à Sakania, de Faradje à Dilolo, plus loin encore, en plein Congo.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué vendredi 17 juillet une visite d'inspection des travaux d'assainissement en cours dans la ville de Kinshasa. Ces opérations sont menées depuis le 15 juillet par la Task Force des services nationaux sur l'axe reliant l'échangeur délimité à l'aéroport international d'Ndjili, selon une communication de la présidence de la République. Au cours de cette descente sur le terrain, le chef de l'État a parcouru plusieurs points stratégiques de la capitale, notamment les quartiers 1, la place Pascal, le marché de la liberté et le saut des moutons des deux bonhommes. Le président Tshisekedi était accompagné du lieutenant général Kasongo Kabuit, commandant du service national et coordonnateur de la task force chargée des travaux. Celui-ci a présenté l'état d'avancement des opérations ainsi que les actions programmées dans le cadre de cette campagne d'assainissement. Selon la task force, les interventions concernent notamment la salubrité de la chaussée, la gestion des déchets, le curage des caniveaux, la gestion des passagers le long des principaux axes ainsi que l'aménagement des espace public. Les travaux sont exécutés par les bâtisseurs du service national. Il s'agit des jeunes autrefois membres de gangs urbains arrêtés par la police puis envoyés au service national pour une rééducation ainsi qu'un apprentissage à différents métiers. Le chef de l'État s'est dit satisfait des premiers résultats obtenus sur le terrain. Johnson Ishara, vous avez souhaité justement nous parler de cette actualité en la formulant ainsi, un général nommé pour la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, en vous posant la question impuissance du gouverneur ou remède à long terme. On vous écoute.
Oui, monsieur Guy, je pense que cette question, elle intéresse tous les Congolais, surtout ceux qui habitent dans la ville de Kinshasa aujourd'hui par rapport au niveau d'insalubrité que cette ville a atteint. Aujourd'hui, Kinshasa fait partie des villes les plus dangereuses par sa pollution. Je pense qu'on devrait être amené maintenant à faire une réflexion autour de ce qui s'y passe. On peut se rappeler qu'après avoir constaté ces niveaux d'insalubrité, ces niveaux d'embouteillage, l'Assemblée nationale l'avait monté au créneau et l'avait institué une commission. Et cette commission, si vous vous rappellerez, elle a été dirigée par l'honorable à l'époque, Matata Ponyo, qui avait donné un rapport très très éloquent, un rapport que j'avais eu le temps d'exploiter. Alors, on a l'impression que ces rapports, bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il est opposant aujourd'hui qu'on a jeté dans la poubelle ces rapports-là. Mais aujourd'hui, maintenant, comment se présente Kinshasa? D'où viennent ces immondices? Pourquoi la ville devient de plus en plus sale? Alors, vous allez voir que les axes aujourd'hui dont on loue ce qui est en train de se faire, mais il faut quand même se comporter comme des hommes normaux. Alors, quand vous êtes par exemple sur l'axe Tiangou, on parle de bonhommes, on parle de Pascal, on parle de quartier 1, mais il faut savoir d'où viennent ces immondices. Ces immondices viennent des communes voisines. Alors, est-ce que ces communes sont impliquées dans ça? Alors, quand on parle aujourd'hui des Gombe, on parle de Ouileri, on parle du rond-point Gaba, ce sont ces carrefours-là qu'on est en train de rendre un peu propres avec les services nationaux qui disent nous allons rendre propre Kinshasa. Non, moi je pense que si c'est comme ça que l'étude a été faite, je vais dire qu'elle est déjà mal partie cette étude. En réalité, pour rendre une ville propre comme Kinshasa, il faut commencer à la base. Et à la base, pour moi, il faut commencer dans le ménage. Alors, ces ménages n'habitent pas dans le boulevard. Ces ménages habitent dans les communes, dans les quartiers, dans les avenues. Alors, comment est-ce qu'on a impliqué ces chefs d'avenue pour savoir que nous allons être à mesure de rendre notre quartier propre? Le mieux, c'est de savoir maintenant à quel niveau nous avons mené une étude pour savoir qu'est-ce qui doit se faire pour que ça soit à long terme. Oui, aujourd'hui, justement, administrativement parlant, quand un général vient s'ingérer dans les questions d'insalubrité d'une entité que vous gérez et que ce général n'a pas de compte à vous rendre parce qu'il y aura des comptes à la présidence, nous avons maintenant le gouverneur de province qui devrait également avoir un task force. Justement, ce n'est pas le président de la République qui devrait inviter les bourgoumestres ou les chefs de quartier pour savoir qu'est-ce qui s'est fait dans les quartiers. Et pourtant, c'est un travail qui devrait être fait. Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de l'éducation environnementale pour que les enfants dans les écoles, pour que les croyants dans les églises sachent que quand vous jetez un papier, quand vous jetez une bouteille, vous êtes en train de salir la ville. Alors, le travail qui s'est fait par le service national, comme je l'ai dit, c'est un travail incroyable dans le premier minute. Mais moi, je ne vais pas me limiter sur les superficiels. Je pense que ça serait mieux, cette émission étant également pédagogique, ça serait mieux qu'on puisse savoir comment on devrait également se comporter. Vous savez, M. Guy, pour à long terme, ce qui devrait se faire, c'est qu'aujourd'hui, avant qu'on puisse déverser les services nationaux sur le voie publique, on est en train de voir, on devrait d'abord travailler sur une éducation et une sensibilisation communautaire. Et cette éducation devrait toucher toutes les sensibilités, que ce soit les artistes, que ce soit les entrepreneurs, qu'il s'en soit les églises, Monsieur Guy, parce que ces églises peuvent jouer également un rôle important. Les écoles, et que ça soit d'une manière obligatoire. La deuxième des choses, c'est la mobilisation communautaire. Pour moi, la mobilisation communautaire, parce qu'on devrait retirer cette idée-là, de ne pas croire que, d'amener l'idée pour dire Kinshasa sera propre parce que le chef de l'État l'a voulu. Non. Je pense que la mobilisation communautaire devrait nous amener à dire Kinshasa sera propre parce que nous, Congolais, nous, habitants de Kinshasa, nous l'avons voulu. Et ça doit être une action qui doit être appropriée par tout le monde et impliquer tout le monde à tous les niveaux. Le troisième volet, c'est maintenant le volet des contraintes. Rendre Kinshasa propre devrait non seulement créer de l'emploi pour la jeunesse, mais également occuper d'une manière utile. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, si on voulait, tout en gardant peut-être les services nationaux, mais on pouvait avoir des brigades environnementalistes, des brigades d'hygiène par quartier. Voilà, en bref, la question qui nous a intéressés. Nous avons estimé qu'il était intéressant qu'on puisse partager également cette lumière.
Merci, professeur Bokabamba. Les résultats sont palpables et beaucoup de gens apprécient, n'est-ce pas, ce qui s'est fait sur le terrain. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que cela puisse s'inscrire dans la durée, hein? Johnson Ishara, lui, a commencé à parler des préalables qui devaient être pris en compte avant de lancer cette opération, notamment l'éducation communautaire. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse s'inscrire dans la durée?
Abdougar, merci pour ce sujet qui est un sujet véritablement prioritaire et même très inquiétant. Ce n'est pas seulement une question d'environnement, mais c'est une question aussi de santé publique. Il suffit simplement de pouvoir lire au niveau de certains hôpitaux et qui font de l'augmentation de toute une série de cas de maladies. Beaucoup de maladies sont liées à cet état de délabrement généralisé de Kinshasa, a comme répercussion sur la santé des Kinois. Et véritablement, c'est une grande catastrophe. Ça devait même être une priorité de santé publique. Ça, c'est vraiment une chose. Si quand on regarde cette question-là, c'est vraiment la preuve, l'indicateur vraiment de la faillite de l'État congolais. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de politique environnementale, de politique de déchets, de pouvoir gérer une ville de plus de 10 millions d'habitants, il est indispensable de pouvoir avoir une véritable politique de déchets, comme on en a vu à Abidjan, comme on en a vu à Dakar, comme on a vu à Nairobi, ou encore dans d'autres pays. Il y a véritablement une politique de gestion des déchets. Et cette politique de gestion des déchets a toujours, dans un premier, trois niveaux au niveau du Congo, trois niveaux d'organisation. Vous avez au niveau de l'État central, donc carrément au niveau du gouvernement, du gouvernement de Kinshasa, du gouvernement donc de l'État. Ensuite, on a le niveau provincial qui est le niveau par rapport à la ville. Et enfin, on a le niveau des provinces et bien sûr, il y a les citoyens. C'est tout ce système qui doit être intégré dans une véritable gestion de politique des déchets. Mais ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas véritablement de politique qui est impulsée aussi bien par le gouvernement central que par le niveau provincial, encore moins par le niveau local. C'est que l'on va remarquer en disant, oui, on a mis le service national sur le terrain. Mais vous allez voir, ce service national sur le terrain, ça va durer combien? Une semaine? Deux semaines? Et puis, nous sommes en saison sèche. D'ici un mois, nous serons en saison de pluie. Et lorsque nous allons arriver en saison de pluie, tout ce que vous pensez qui a été fait, bien entendu, ça va être refait. Et le fait même de pouvoir recourir à l'armée, à un général, pour pouvoir intervenir dans le cadre d'une politique qui revient à l'exécutif, là, véritablement, je crois que nous sommes sur je ne sais pas quelle planète, où on est peut-être dans une autre dimension. Ce n'est pas possible. Un militaire, ce n'est pas sa place d'être là. C'est de la responsabilité politique de l'exécutif qui doit mettre en place une véritable politique de gestion de déchets. Sans ça, je ne vois même pas comment on va solutionner. Ça va être comme si on mettait un sparadrap sur une fracture. Si vous mettez un sparadrap sur une fracture, vous allez penser que vous êtes guéri. Mais non, vous n'êtes pas guéri. Et que lorsque vous allez essayer de marcher, eh ben, vous aurez encore mal. Et peut-être vous aurez encore plus mal qu'avant.
Merci. On me signale que Eric Mwamba est là. Eric Mwamba, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Eric Mwamba, vous êtes fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, magazine paraissant à Melbourne, en Australie. Cette approche qui suscite beaucoup d'espoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle ne puisse pas déboucher sur une illusion?
Bon, moi, je viens juste de quitter Kinshasa il y a quelques heures et j'ai vu beaucoup d'enthousiasme, surtout des personnes qui viennent du côté des Kango. Mais moi, je pense que c'est un problème de manque de politique structurelle en matière de salubrité. Puisque quand vous circulez dans d'autres quartiers, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques les dirigeants messie, quoi. C'est-à-dire on pense qu'en mettant un général, le général Kasongo, qui a fait ses preuves au service national, il viendra résoudre un problème que les autorités de la ville de Kinshasa, donc le gouvernement provincial, n'a pas été en mesure de résoudre. Donc on amène un général dans l'espoir qu'il vienne résoudre ça. Or, quand vous circulez à Kinshasa, par exemple dans d'autres quartiers, vous voyez bien que j'ai vu des endroits où toutes les ordures de tous les jours sont jetées dans les caniveaux. Ça montre qu'il y a l'absence de l'État au niveau local, puisque la politique de gestion est faite au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la municipalité. Le général Kasongo ou les services nationaux, qui n'est pas un service spécialisé de la mairie de Kinshasa, ne pourra jamais être partout. Kinshasa étant une mégapole très vaste, moi je pense que ça montre tout simplement une politique d'essai erreur en matière de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Kinshasa de JBM Piana et on se retrouve juste après.
Ah. Kinshasa ngoyo ngoyo te, Juste Tumba, Freddy Mokolo. Ngana yoka kina sango, kinye tonda santima. Nango na komina kinyango, nga ina miyoke lima wa.
Oh, nga ina miyoke lima wa.
Yeah.
Na miyoke lima wa.
Papa Lovi Kinkolo.
Ngana yoka kina sango, kini mpoto mo indoe. Na yoka kina gado e bangu na sumbi tikeo Tango na komi na kinyango mingi bitambo na pipa sushi
Plantation basa mendo tike lima na nyo
hey, hey.
Na miyoke lima wa
Mino matadi
Na miyoke lima wa
George Malaba Willy Kamenga
E kouton biso na village Va kinchase pui mouri Oza la mwasi mobali
Passez par la bâche,
oyo, ne
C'était Kinshasa de JBM Piana dans Wenge BCBG. À travers cette chanson, JBM Piana peint un tableau noir de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Je rappelle que nous avons dans cette émission, en ligne depuis Paris, capitale de la France, Eric Mwamba. Il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent, magazine paraissant à Melbourne, en Australie. Johnson Ishara Boutaragaza, acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et aussi en ligne depuis la ville de Liège en Belgique. Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Gestion efficace du temps comme facteur de rentabilité économique, Kinshasa, ville du temps perdu. Eric Mwamba, justement, c'est vous qui avez choisi ce sujet. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de ce sujet sur la gestion efficace du temps comme facteur de rentabilité économique, Kinshasa, ville du temps perdu. On vous écoute, Eric Mwamba.
Je voudrais défendre une idée simple à Guy Maté, puisque en RDC, nous parlons constamment des richesses minières. Le cobalt, le cuivre, l'or, les diamants, ou bien nos immenses forêts. Mais je crois que nous oublions souvent la plus grande des richesses de toutes, qui est le temps. Alors, le temps est la seule ressource que le président de la République, un ministre, un homme d'affaires ou un étudiant, un chauffeur de taxi, reçoivent exactement en quantité égale. C'est-à-dire, chacun de nous a 24 heures par jour. La différence entre les nations qui progressent rapidement et celles qui stagnent réside souvent dans la manière dont elles utilisent ces 24 heures. Permettez-moi alors de commencer par une histoire que j'ai vécue personnellement. Jeudi dernier, un ministre de la République, donc un ministre au niveau national, m'avait confirmé une audience avant 13 heures. Vous voyez bien, déjà très bien qu'un ministre qui vous dit « je vais vous recevoir avant 13 heures », ce n'est pas une heure précise, puisque en anglais on parle de appointment, c'est-à-dire qu'on vous donne l'heure précise. Donc on vous dit je vais vous recevoir à 12h15, 12h30 ou 12h45. Alors moi par prudence, je me suis rendu au cabinet du ministre à 11h. Le protocole m'a fait remplir les formalités habituelles d'usage, mais j'étais curé, ils m'ont fait une remarque qui m'a semblé un peu anecdotique en me disant pour une audience prévue avant 13 heures, vous devriez vous présenter avant 10 heures. Vous voyez que chaque fois, il n'y a pas d'heure fixe. Alors moi, j'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans la salle, il y avait également plusieurs autres personnes. Quand j'essayais d'engager la conversation avec ces personnes, parmi ces personnes, il y avait des hommes d'affaires, des leaders communautaires, ainsi de suite, qui sont venus également pour se faire recevoir par le ministre. Et moi, j'avais un voyage durant la soirée pour me rendre à Paris. Alors, je suis allé au cabinet au secrétariat pour poser la question pourquoi je n'étais pas reçu 3 heures après. Et là, une collaboratrice du ministre me dira discrètement que le ministre lui-même n'était pas encore dans son cabinet depuis le matin. Voilà. Et le soir, je me rends à l'aéroport international de Dili. Notre vol, donc le Boeing 787 d'Air France, était décalé d'une heure puisque une autorité importante dont je ne saurais pas citer le nom ici, devrait utiliser la piste pour un voyage privé. Vous voyez, une autorité du pays qui fait retarder un vol commercial où il y a des citoyens ou des investisseurs étrangers qui doivent se rendre dans leurs activités. Alors, si chaque heure pouvait produire seulement 20 dollars, par exemple, et que chaque citoyen, un opérateur économique, par exemple, perdait 2 heures par jour dans les services, les transports, l'industrie ou l'entrepreneuriat, nous parlerions d'environ 80 millions d'heures. J'essaie un peu de faire une simulation économique. Hein. Ça me donnerait 80 millions de dollars de richesses potentielles perdues chaque jour. Cela représenterait près de 400 millions de dollars par semaine, 1 milliard 800 millions de dollars par mois et près de 20 milliards de dollars par an. Bien entendu, comme je disais, j'ai fait une simulation économique destinée à illustrer un ordre de grandeur. Mais cet exemple montre une chose. Le temps perdu coûte extrêmement cher. À Kinshasa, cette réalité est visible. Chaque matin, des centaines de milliers de personnes quittent Massina, Kimbassé, Kendili, Mongafula, Selemba ou Ngaliema pour rejoindre principalement les centres de la Gombe. Les soirs, le mouvement recommence dans le sens inverse. Pendant ce temps, le moteur tourne. Le carburant est consommé, les entreprises attendent, les clients attendent, les familles attendent, l'économie est ralentie. Le problème ne se limite pas aux embouteillages, comme puisque la plupart des gens ont l'habitude d'accuser les embouteillages. Nous avons progressivement installé une culture du retard.
Merci.
Les réunions commencent rarement à l'heure et les cérémonies officielles accusent souvent plusieurs dizaines de minutes, parfois plusieurs heures de retard. Alors Guy, moi je suis heureux de participer à cette émission avec le professeur Kabamba, qui est un des rédacteurs de notre constitution. Alors je me pose la question de savoir s'il n'était pas temps, par exemple, d'insérer un article dans la constitution pour imposer aux dirigeants, à tous ceux qui assument les mandats de l'État, par exemple, leur imposer la ponctualité, leur imposer la rigueur dans la gestion des temps, la gestion des courriers, la présence à des réunions, la préparation des rapports, ainsi de suite. Il ne fallait pas insérer cette disposition comme une obligation pour les dirigeants dans la Constitution.
Merci. Justement, professeur Bob Kabamba, vous allez réagir à sa réflexion. Mais lorsque beaucoup de gens arrivent à perdre, n'est-ce pas, la notion du respect du temps, cela pourrait avoir quel impact sur l'économie du pays, mais tout en répondant aussi à la préoccupation d'Éric Mamba.
Donc, la réponse à cette question, je trouve vraiment que la question n'a pas lieu d'être, puisque tout simplement, dans le cadre du travail qui est demandé par rapport à un État, il y a des obligations qui sont définies par la loi sur le travail, avec les heures qui sont définies par rapport aux heures de travail, etc., etc. Tout ça est déjà bien réglementé au niveau donc du droit social. Je ne vois pas la nécessité de pouvoir arriver à avoir une disposition spécifique sur cette question, alors que cette question est déjà réglée dans le cadre donc du code du travail et surtout par rapport au droit social où on a des obligations de pouvoir être au travail, de travailler autant d'heures par jour, d'être à son bureau si on est un fonctionnaire et de pouvoir être au service des citoyens et pas nécessairement continuer à avoir un État qui ne fonctionne pas. Un État qui ne fonctionne pas, on a un État qui a un déliquescence. Et l'exemple qui vient d'être donné est aussi un autre indicateur de la défaillance et de la déliquescence de l'État congolais. Et malheureusement, tant qu'on va continuer à assister à cette délinquance, je vois mal comment le Congo de demain pourra s'en sortir. Nous allons continuer toujours à tourner en rond et continuer toujours à essayer de trouver des mécanismes qui vont essayer de résoudre ces différents problèmes tant que nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir respecter ce sur quoi on s'est engagé.
Merci, Johnson Richard Boutarangaza. Nous allons finir cette émission avec vous. Dans une ville avec beaucoup d'embouteillages, des embouteillages interminables, comment on peut faire pour que la ponctualité soit de mise pour tout le monde, Johnson Richard?
Oui, monsieur Guy, je pense également qu'il y a d'embouteillages parce que les gens pensent qu'ils ont tout le temps avec eux. Mais si tout le monde au volant pouvait savoir que je suis obligé d'être à temps là où je veux, il évitera de se mettre en retard, autant il évitera de causer le retard des autres. Ça, c'est un facteur. Et puis, deuxièmement, par rapport à la question évoquée par le co-débatteur, moi, je pense également que le droit du travail a réglementé ça, mais plutôt nous avons développé une culture particulière à nous, cette culture où voilà, quelqu'un peut être en retard, il ne s'esquisse pas et il sent que c'est normal. Et pourtant, le temps, comme il a été dit, c'est un premier facteur de production. Et là, quand on est en économie, et que le philosophe Godefroy Kamanaki nous disait chaque fois que quand les Congolais gagneront la bataille du temps, ils s'élèveront comme un grand peuple. Et cette bataille, nous l'avons perdue. Et malheureusement, ce qui doivent nous aider à gagner cette bataille, ce sont nos leaders politiques, ce sont nos autorités, ceux qui gèrent les institutions. Et malheureusement, ce sont les mauvais exemples. Et c'est pas seulement les audiences, c'est à tous les niveaux. On pense que quand on a le pouvoir, au fait, on est exempté de toutes les autres choses. Vous en êtes exempté. Être à temps, vous avez une conférence, vous avez une activité que vous devez lancer. Et ce qui est bizarre, c'est quand vous avez une activité dont même il y a d'autres pays qui sont venus, et on les informe qu'on n'a pas encore commencé parce qu'on attend un ministre. Moi, je pense que ça a touché maintenant même les citoyens. Ils savent qu'être en retard, bon, c'est pas un problème, jusqu'à ce qu'ils ont inventé un terme. Il y a l'air à la congolais, ça veut dire vous ajoutez une heure ou deux heures, et quand ils arrivent, c'est normal. Non, moi, je pense que c'est qu'ils tirent un trait de nous affaiblir, et ça ne nous confirme pas comme un grand peuple. Les gens qui respectent le temps, ils ont tout le temps pour produire, ils ont tout le temps d'être en avance que nous, et voilà, nous allons continuer à nous plaindre, mais il y a des aspects essentiels que nous ignorons de mettre en place. Par exemple, ça, et je remercie les compatriotes qui ont proposé ces sujets pour qu'on en fasse aujourd'hui un sujet de débat.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Johnson Ishara Butaragaza, d'être venu ici au studio. Merci aussi au professeur Bob Kabamba et aussi à Eric Mwamba qui ont participé, n'est-ce pas, à cette émission. Merci aussi à Alain Bidoya qui était à la technique avec la participation de Dion Yangasa. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Tokoma Bakamara de Pamba, il est notre composition de Franco Luambo Makiadi, toujours à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. On écoute donc Tokoma Bakamara de Pamba et on se retrouve le samedi prochain.
Ko mama bakamara na mama eh eh mwasi na mabale kila kala eh eh mama bakamara na mama eh eh mwasi na mabale kila kala eh eh
so kya moninga na ye kolanda te mangungu pamba eh so kya moninga na ye Ola anda deli bale sila kala eh mama
tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh
sokya moninga na ye kolenga lenga pamba te sokya moninga na ye Holanda te li bale kufa kalabo oh oh
tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh
sokya moninga na ye Holanda te mangungu pamba eh sokya moninga na ye Ola anda deli bale sila kara eh eh mama
tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kara eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kara eh eh
sokyo moninga na ye kotuna tuna pambate sokyo moninga na ye Holanda te li bale mura kala ho oh, ho oh, ho oh.
Tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh
sokya moninga na ye Holanda te mbulu pamba eh sokya moninga na ye Holanda te mangungu pamba eh eh mama
tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh
sokya moninga na ye kolenga lenga pamba te sokya moninga na ye Holanda te li bale sila kala ho oh, oh, oh. ho
tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh tokoma bakamara na mama eh 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 imasi na mabale sila kala eh eh